Ma préférence, Irène Finkel.
Jean-Luc Palévaudy.
Bonjour.
Bonjour.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie. Bienvenue sur Esprit Occitanie. Comme toujours dans ma préférence, on va parler théâtre, littérature, livre occitan, également série. Et l'interview d'un invité surprise rencontré à Paris où j'étais la semaine dernière. Et puis on aura le plaisir d'accueillir Olivier Maraval qui viendra nous parler de son spectacle au mois de janvier. Et puis nous recevons également la toute jeune chanteuse Lisa Camin. Voilà, vous connaissez le menu. Menu chargé aujourd'hui, c'est ma préférence et c'est parti. Alors on commence tout de suite avec Marion de la librairie de l'Hostal, venue nous parler d'un livre en occitan.
Adieu.
Bonjour Marion.
Adichat. Et au Bousbao parla d'une libre en utita. Alors, ouais, une Bousbao parla d'une autou, supré tout. Une autou que c'est sous nos Joan Boudou, belé ou loukou neisset. Joan Boudou est nascut en 1920. En a Bayrou, des encusomé. Et l'an do passado a ben festejat sous sentence son anniversari. Est une romancier, une poète de Rouergue, qu'est pla famous. Escriguet tout au son nobro en utsita, mas pudem aro trubat abe de traductio en français. Alors, au Bousbao parla de sous contes qu'escriguet din las anados 50 à partir des collectaces et d'encontrer un bel loup, c'est là, ce qui parle de la langue nostre. Alors, une conte est subendite comme mot qui compte des primitifs. Alors, pourquoi parler de conte en utita? Eh bien, per tres raisons. En premier, perché à l'approccio de Nadal, se conta d'historios imaginarios, fabulosos, fantasticos, es importante. Vol dire que permet de se retrouver en famille per pateja un polit moment entre parents, entre grands, entre pitchous, avant d'anar a liet, per exemple. En segon, perquè lo conte permet en mai de conta d'historios de balia als mainatges, al més grans, las causos de la vida, los dangers et mas tabé de biais de reflexió. Et en fi, perché los contes de Boudou son famous. Son escrits d'une langue forso agradibo et son de bonnes leggis, courtettes et pla adaptat à un apprentissage de la langue nostro. Alors, saimat, l'udrac, l'usdracou, las masqueros, et ou tout simplement soumia d'historios extraordinarios et tradicionales du titanio, cal patrantalia. Benet Krumpa, à quel libre des Boudou.
J'ai pas tout compris, mais.
Mais Mario, on va quand même nous donner quelques.
Mais j'avoue qu'en se concentrant, quand même, il y a quelques phrases qu'on arrive à comprendre.
Ouais. Mais... Cela étant, je pense que les auditeurs ne maîtrisent pas aussi bien que Marion l'occitan. Peut-être quelques mots, Marion, en français.
Quelques mots. Alors d'abord, si vous ne connaissez pas l'occitan, vous pouvez l'apprendre, puisqu'il y a des cours qui sont donnés à l'Hostal d'Occitanie. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner, je vous donnerai tous les conseils qu'il faut à la tute. Et puis, donc, je vous ai parlé d'un auteur qui s'appelle Joan Boudou, et qui a écrit toute une œuvre essentiellement en occitan, mais qui commence à être disponible en français. Je vous ai plus spécifiquement parlé des contes de Boudou, qui sont des contes qui font peur, mais des contes aussi plus traditionnels, qui font réfléchir et qui permettent de passer de la réflexion entre les membres d'une famille et puis tout simplement de rêver, de penser, de réfléchir, tout ça. Donc,
très bien,
un beau cadeau pour Noël.
Tu absolument. Tu nous donnes un petit contact ou on peut éventuellement...
Eh bien, la tuto à l'Hostal d'Occitanie.
Rue Malcousina.
Rue Malcousina, voilà.
Merci beaucoup, Marion.
On se retrouve dans 15 jours.
Oh, la ségue.
Encore sur toi.
Merci. Et c'est maintenant Chloé Cardino que vous avez l'habitude d'entendre dans l'émission.
Bonsoir à tous.
Préférence. Bonsoir,
vous allez bien,
Chloé?
Bon, j'ai un gros rhume, j'espère que ça ne va pas s'entendre trop. Ça s'entend un petit peu. Bon, c'est pas grave, bon, on va faire avec.
Court, hein, tout le monde peut.
Oui, avec le froid qui est arrivé d'un coup.
Revendiquer ce type de situation.
Alors, qu'est-ce qu'on a au théâtre actuellement?
Au théâtre, en décembre, il y a tellement de choses que j'ai eu du mal à faire un choix. Mais je me suis arrêtée un peu sur les troupes que j'adore, encore une fois. J'ai du mal à changer, mais c'est parce que j'ai envie d'aller les voir à tout prix. Donc, il y a Le Voyage de Monsieur Perrichon, de Eugène Labiche, qui va être à l'Escale, à Tournefeuille, par la compagnie Le Grenier de Toulouse. C'est mis en scène par Stéphane Battle. Alors, je ne sais plus, jamais si on dit Battle ou Battle. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais c'est un super metteur en scène. Et c'est mis en scène aussi par Pierre Matras, qui est un comédien. Ils sont tous les deux comédiens de la troupe également. Pierre Matras joue dans la pièce. Et ça, c'est du 16 au 33 décembre, du mardi au samedi à 20h30. Et le dimanche également, il y a une horaire à 16h. Et le 31 décembre, il joue deux fois à 18h et 22h. Alors là, c'est un voyage, Le Voyage de Monsieur Perrichon. C'est connu, moi je l'avais étudié un peu au collège, je m'en souviens vaguement. C'est un voyage au conflit.
Hein, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Oh si, croyez-moi. Donc, c'est un voyage au conflit de l'ingratitude humaine. Il y a Laurent Colombert dedans qui joue, Muriel Darras. Donc Laurent Colombert fait Monsieur Perrichon, Madame Perrichon, Muriel Darras. Rose-Hélène Michon qui va jouer Henriette Perrichon, leur fille. Johan Villepastour. En fait, l'histoire, c'est Monsieur Perrichon qui a une fille qui elle-même a deux charmants prétendants. L'un des deux a sauvé Perrichon et le second a été sauvé par ce même Perrichon. Lequel choisir? Imaginez un peu le dilemme. Donc voilà, c'est une comédie. C'est drôle avec cette compagnie, on n'est jamais déçu. C'est à l'Escale à Tournefeuille, je crois qu'il y a des bus qui y vont. Sinon, c'est en voiture, il y a un parking. C'est juste à côté du cinéma et c'est vraiment une valeur sûre pour moi, cette compagnie. Je les aime depuis que j'ai 14 ans et je les suis. Ensuite, il y a beaucoup de Fédo aussi. J'ai remarqué, donc j'ai noté qu'il y avait au Théâtre du Pavé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de ce théâtre, que Tiffaine connaît bien aussi. Donc il y a une pièce qui s'appelle, c'est les fêlés de Fédo en fait. Ça va être deux petites pièces en un acte de Fédo. C'est le gibier de Potence et Léonie est en avance ou le mal joli. Ça c'est du 16 au 31 décembre. C'est les mêmes horaires que le voyage de Monsieur Perrichon. Donc au Théâtre du Pavé, c'est à Saint-Agne. C'est mis en scène par Francis Azéma, qui est le directeur du théâtre et qui est également un professeur du conservatoire. Je parle pas mal de lui aussi parfois,
oui.
Parce que j'ai fait des cours avec lui à l'époque et j'aime beaucoup ses mises en scène. Il y a Corinne Mariotto qui joue dedans, Pierre Marty, Denis Ray, qui est un acteur à découvrir. Il est hilarant, il est gentil, c'est quelqu'un d'humble en plus, une belle personne. Et il joue de manière très, très fine. Et donc, c'est deux petites pièces en un acte sur Fédo. C'est du vaudeville. C'est de la comédie, pardon. j'ai mon nez qui commence à couler. C'est de la comédie. C'est les horaires, c'est 20h30. Et pareil, un dimanche à 16h. C'est vraiment pareil que Le Voyage de Monsieur Perrichon. Vous pouvez aller voir sur le site de toute façon. Le spectacle dure 1h40. Et il y a, pareil, aussi deux représentations le 31. Pour, si vous voulez passer le 31 au théâtre, c'est toujours sympa, on peut y aller à 18h ou à 21h, donc vous pouvez manger avant, après, sur place, il y a toujours des choses à manger. Voilà, et après, deux dernières choses rapidement, il y a au Grenier Théâtre, donc c'est pas le Grenier de Toulouse, c'est le Grenier Théâtre, cette fois-ci à Auzargoulet, dont je parle souvent. Il y a un autre Fédo, c'est la Puce à l'oreille, cette fois, avec une troupe Cœur et Jardin, dont je parle aussi souvent, qui font des belles créations. Ils avaient fait nos femmes dernièrement. Et là, il y a plein de comédiens. Il y a toujours Marc Fagé, dont je vous ai parlé. Il y a Virginie Desarnaud, qui est la directrice artistique du théâtre du Grenier Théâtre, et qui jouait dans Premier Baiser avant, pour ceux qui connaissent. C'était une série de...
D'une génération...
Ouais, enfin, moi, quand j'étais petite, je n'avais pas trop le droit de regarder. Je lui ai dit d'ailleurs, parce que je l'ai rencontrée, Virginie. Elle est très, très sympa. Et je disais, bon, j'avais pas le droit de regarder parce que mes parents pensaient que c'était des niaiseries, comme diraient les Québécois. Mais je me suis rattrapée à 20 ans, j'ai regardé en replay. Et donc, elle joue dans la pièce et c'est pareil, un vaudeville rocambolesque avec des portes qui claquent, des amants, des maîtresses. Et c'est pour si vraiment vous avez envie de connaître Fédo, là, pour le coup, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez savoir ce que c'est Fédo entre ces deux théâtres vous aurez un avis. Et après, pour finir, je me permets de reparler du Studio 55.
Oui, justement, moi, je voulais qu'on en parle parce que j'ai vu passer une vidéo.
Et c'est ça, je me dis, bon, allez, alors, on va parler un peu de soi.
Voilà, un peu, exactement. Ça fait un peu, mais j'allais, voilà, j'allais vous interroger là-dessus, de toute façon.
C'est la partie narcissique. Voilà, en fait, on a créé un spectacle, c'est une comédie de Noël improvisée. Donc, vous voyez tous ces films d'amour cucu qui passent à Noël, là,
oui,
les après-midi, souvent. Et
bien,
en fait, c'est ça, mais improvisé. Donc, on a repris tous les clichés de ces comédies. Généralement, quand on commence le début du film, pour ceux qui en ont vu quelques-uns, on sait déjà comment ça va se finir. Mais on regarde quand même parce qu'on a envie de les voir s'embrasser, s'aimer. Je sais pas, il y a un truc un petit peu...
Elle est toujours dans le marketing et lui est toujours bûcheron.
Oui, voilà, ils ont toujours rien en commun au départ. Soit ils se détestent, soit ils ont rien en commun. Ils se retrouvent, elle vient de la ville, elle arrive dans ce petit village paumé. Et donc, c'est exactement ça. On reprend tous les clichés et on va s'en amuser pour faire une comédie givrée. Parce que ça s'appelle Romance givrée avec ma compagnie d'impro, Le Grand I. Et en fait, c'est Fred et Mélissa qui gèrent la partie du programme de cette nouvelle salle, le Studio 55, qui nous ont demandé de créer un spectacle pour Noël, pour eux. Donc, on a créé vraiment ça que pour eux. On ne l'a jamais joué ailleurs.
Quelles sont les dates ?
Et alors, les dates, ça commence cette semaine. C'est le 3 et le 4 décembre. Alors, moi, je n'y suis pas, mais ils sont 4 sur scène. Parce qu'on est 4 sur scène avec un régisseur qui improvise avec nous aussi des sons, des lumières... Qui va délirer avec nous aussi. En général, les régisseurs, ils aiment travailler. On en a un officiel, deux officiels à peu près. Et ils aiment jouer avec nous parce qu'ils s'amusent, quoi. Ils font n'importe quoi aussi, ils nous envoient des sons. Alors là, on a pris plein. Voilà, j'ai récupéré votre musique, Irène, que vous aviez passée ici à la radio. Something Stupid.
Ah oui, oui, oui. C'est une de mes chansons préférées.
Voilà, on l'a mis dans notre playlist. Le régisseur peut nous la passer à tout moment. Et donc, c'est une comédie...
Elle est parfaite pour ce genre de pièce, en
plus. Parfaite, ça va très bien. Ils me l'ont validé tout de suite. Donc, c'est le 3, 4 décembre et 21, 27, 28, là, j'y serai, moi, personnellement.
21, 27, 28, vous
voilà,
nous le redirez.
C'est trois dates. Ouais,
il faut aller voir,
si
Chloé.
Voulez.
D'ailleurs, à ce sujet, eh bien, on va vous donner le lieu où on peut... Oui. Le téléphone où on peut réserver. Studio55.fr. Mais aussi par téléphone au 06 48 31 00 49.
Voilà, c'était ma petite partie. Parce que j'aime beaucoup ma compagnie, on s'adore et on va rigoler. On a fait une chorégraphie bien cucu pour commencer, pour entrer en scène. Et
combien de temps
dure
le spectacle, pardon ?
1h20 maximum, 1h15, 1h20. Comme une petite comédie romantique de Noël en film, c'est à peu près ça. Ça ne dépasse jamais 1h30.
D'accord.
Mais après, c'est improvisé, alors c'est jamais fixe.
Cette nouvelle salle, c'est Studio 55, c'est ça ?
Ouais.
Elle a une capacité d'accueil de combien de personnes ?
Alors, je n'y suis pas encore allée, justement. Moi, je vais y aller ce samedi.
Vous nous rappelez l'adresse ?
Je vais découvrir, mais elle est assez grande. C'est 55 avenue Louis Bréguet,
oui.
À côté de la Halle aux Machines, à Montaudran.
Donc, on peut téléphoner pour réserver, pour venir vous voir.
Exactement.
Donc, 21, j'ai retenu 28 et 29.
27 et 28.
27 et 28,
voilà.
D'accord.
N'hésitez pas à me le dire avant, Irène.
Oui, bien sûr, Chloé, je vais organiser ça. Un téléphone pour réserver.
Le téléphone, alors Jean-Luc l'avait donné, mais je vais vous le redire. C'est le 06 48 31 00 49.
Ok.
Merci beaucoup à vous.
Oui.
Ben, bon théâtre en décembre, hein, n'hésitez pas à aller voir ça, il y a plein d'autres choses.
C'est vrai, oui, Irène, c'est vrai, Chloé, qu'un programme et des programmations nombreuses
pour cette fin
d'année.
Il y a plein de théâtres.
Et tant mieux, heureusement qu'on en profite, parce que j'espère que ça va durer, surtout.
C'est ça, on a un petit peu peur sur le couvre-feu,
oui, mais
tout ça, mais on va croiser les doigts.
Chacun doit faire ce qu'il doit faire pour
Et chacun doit profiter d'aller au théâtre pour ne pas râler une fois qu'on sera enfermé et se dire on aurait dû y aller.
Exactement.
Donc là, on peut y aller, donc il faut absolument en profiter maintenant.
Voilà,
exactement,
c'est le moment.
À Paris, partout, dans toutes les villes. Moi, j'étais à Paris voir Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy. J'ai adoré aussi, donc pareil.
Récemment ?
Oui, là, il y a deux semaines, une semaine et demie.
Ah bon, c'est croisé, j'étais la semaine dernière.
Ah, vous l'avez vu, ce spectacle ?
Non, mais on était à Paris. On y était pas ensemble avec Jean-Luc, voilà, mais on y était en même temps.
Super, moi j'ai été voir ça, super. J'adorais Maurice Barthélémy depuis les Robins des Bois et j'ai pas regretté. Voilà, je vous laisse à la suite.
Merci beaucoup, Chloé.
On compte sur vous dans 15 jours.
Oui, oui, oui. Je serai remise de mon rhume, j'espère.
Bah, je l'espère également.
Ou tu nous l'auras donné à tout le monde.
Ah non, non, je remets mon masque tout de suite, là.
Non, non, ça va. Voilà, merci, j'ai donné de ce côté-là.
Je vais me laver les mains.
On reçoit la toute jeune Lisa Camin, donc une jeune chanteuse, comme je l'ai annoncé en début d'émission. Bonsoir, Lisa.
Bonsoir.
Alors, qui est Lisa Camin ?
Donc, je m'appelle Lisa Camin, j'ai bientôt 17 ans et je suis en préparation d'un EP pour 2022.
Vous nous expliquez ce qu'est un EP ?
Un EP, c'est un mini-album de 4 voire 5 chansons.
D'accord. Alors, vous êtes en préparation d'un album, c'est-à-dire vous êtes auteur, compositeur et interprète ?
Alors non, du haut de mes 17 ans, je n'arrive toujours pas à écrire. Et... En fait, il y a Brice Conrad, qui est un chanteur, aussi auteur-compositeur, qui m'a repéré sur les réseaux sociaux. Il m'a proposé de faire des chansons avec lui, parce qu'il est aussi producteur de jeunes artistes comme moi. Et ce week-end, du coup, je suis allée à Paris pour enregistrer et finaliser 2 chansons avec Ota Music, qui était aussi un chanteur qui allait à The Voice. Et du coup, on a finalisé 2 chansons, peut-être une qui va sortir en janvier. Et le reste en 2022.
Mais c'est une sacrée aventure, ça.
Oui.
C'est une très, très belle aventure.
Et tout ça grâce aux réseaux sociaux.
Oui. Après, je chante depuis quand même longtemps. Depuis toute petite, j'ai fait la maîtrise du Capitole en tant qu'enfant pour l'opéra. J'ai pu faire Carmen au théâtre du Capitole. J'ai fait de la guitare à 9 ans et après, j'ai fait des cours de chant. Et je me suis
les cours de guitare, excusez-moi, Lisa, les cours de guitare, vous les avez pris au conservatoire ?
Non.
Avec un prof en particulier ?
Oui, un prof en particulier.
Et vous continuez toujours et les cours de guitare et les cours de chant aujourd'hui ?
Alors les cours de guitare, j'en fais plus parce que je m'accompagne surtout, je ne suis pas guitariste, je m'accompagne de la guitare, mais les cours de chant, j'ai arrêté depuis que j'ai beaucoup de concerts du coup, parce que depuis cet été, j'ai pu faire mes premiers concerts. Autour de Toulouse et à Toulouse même, j'ai pu chanter au Florida, au Bellini. Et donc, ouais, c'était des très bonnes expériences. Et il y a encore plein de concerts qui vont arriver en 2022.
C'est super, ça.
Oui, c'est vraiment édifiant. Ouais. Je suis scotché par ce parcours.
Une toute jeune fille comme ça.
C'est naturel. Félicitations. Et pleine de bonheur.
Merci.
À venir.
Est-ce que vous avez des modèles dans la chanson ? Quel est votre style et qu'est-ce que vous aimez comme style ? Qu'est-ce que vous aimez écouter ? Quel est votre propre style ?
Alors, j'ai plusieurs styles différents que j'aime. J'écoute beaucoup d'américaines comme Billie Eilish. C'est mon idole. Mais après aussi, j'aime beaucoup les chansons françaises, des chanteuses comme Barbara Pravi, Clara Luciani. C'est vraiment les chanteuses.
Alors là, vous nous parlez vraiment de chanteuses... contemporaine.
Oui.
Et vous avez des modèles peut-être plus anciens, vous aimez les chanteuses à texte ?
Oui, oui. Après, j'aime aussi reprendre les chansons, lors de mes concerts, j'aime bien reprendre les chansons anciennes que je peux reprendre à ma façon, qui peut plaire à un certain public et pas faire des chansons modernes d'aujourd'hui.
Justement, comment ça se passe quand vous dites... reprendre une chanson et la modéliser selon votre perception. Est-ce que c'est possible aussi facilement que ça à l'heure actuelle, notamment par rapport aux droits d'auteur, par rapport à ces choses-là ?
Ben oui, les droits d'auteur, c'est surtout pour quand on les sort sur les plateformes. Après, reprendre les chansons parce que je fais avec ma guitare. Donc il n'y a pas la bande son originale. Avec ma voix, ça change aussi. Je change quelques petits rythmes et ça le fait à ma façon, quoi.
D'accord. Ouais, c'est intéressant.
Donc ça, c'est autorisé.
Oui.
D'accord. Là, Jean-Luc nous parle.
Quelque chose.
Jean-Luc nous parle de ça parce qu'on est tout à fait dans les droits d'auteur. Depuis hier, c'est très à la mode. Depuis une certaine vidéo sortie hier.
On n'en dira
hier,
pas plus.
Non, c'est. Puis en plus, c'est pas du tout intéressant. Donc, je préfère largement parler de Lisa qui est un vrai soleil. Et ça, c'est du positif. Et ça, c'est.
Non, mais je crois que c'est un bon exemple aussi pour les jeunes. Elle est jeune et elle montre que, en fait.
Que tout est possible.
Voilà, en termes de créativité, il faut se lâcher.
Quel est votre rêve ? Vous avez envie de quoi ?
J'ai pas vraiment de rêve, mais j'aimerais bien, oui, aller plus loin dans la musique. Après, prendre aussi mon temps parce que je suis quand même jeune. Mais
Donc les pieds sur terre.
Oui.
Jeune avec les pieds sur terre.
C'est ça.
Ça, c'est le plus important. On va vous écouter. Vous avez choisi de nous faire écouter quelle chanson ?
Donc je vais vous faire I Love You de Billie Eilish.
It's not you. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. Oh. What the hell did I do? Never been the type to, never been the type through. Oh. Maybe want to take it back. Tell you which one will make me loud. And nothing has to change today. You didn't mean to say I love you. I love you. And I don't want. Oh.
Bravo.
Merci.
Alors, d'abord merci, je crois que c'est le premier mot qu'il faut dire. Je suis émue, vous m'avez cueillie, voilà, j'ai ressenti plein... Je suis désolée, je suis vraiment émue, c'est magnifique, magnifique.
Merci.
Alors, je ne vais pas la faire à la Michel Drucker, retenez bien ce nom. Voilà, voilà. Lisa Camin, une jeune femme de même pas 17 ans. Les émotions, parce que des chanteurs, des chanteuses, il y en a des paquets et des paquets, mais Lisa, vous m'avez cueilli vraiment.
Merci vraiment. Lisa,
merci beaucoup.
Donné,
Et vous restez là parce que je veux encore vous écouter à la fin de l'émission. Vous pouvez sortir votre guitare et je veux que ce soit vous qui clôturiez l'émission parce que vraiment vous m'avez. Voilà, je vais me ressaisir. Excusez-moi. C'est très très beau. Merci beaucoup. Il n'y aura que des jolies choses pour vous parce que c'est ça. D'abord, vous avez la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut, vraiment. Et c'est pas peine de vous souhaiter le meilleur parce qu'il sera là le meilleur pour vous. J'ai aucun doute là-dessus. Vraiment.
En tout cas, merci Lisa d'avoir offert à Esprit Occitanie
merci
ce
à vous.
Beau moment si bien traduit par Irène. Avec une belle émotion.
C'est l'émotion.
Vraiment, nous en sommes très reconnaissants.
Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup. Alors, dans un tout autre registre, on va passer à la rubrique littérature. On va appeler, comme à notre habitude, Pascal Sabatier en duplex. Alors, je ne sais pas si Pascal est déjà au téléphone. Non, on me dit que non. On va attendre deux petites minutes, ça va me permettre de me ressaisir. Je suis, voilà, je vous avais jamais entendu, donc je. Ouf, merci encore, vraiment. Pascal, bonjour.
Bonjour Irène.
Alors, vous avez lu de jolies choses ces derniers temps.
Alors, des jolies choses, jolies comme lecture et jolies comme bouquin, parce que je vais vous parler de petits cadeaux de Noël, puisque ça approche.
Eh bien oui, c'est une très très bonne idée, effectivement.
Donc, j'ai lu pour vous deux romans graphiques. Alors, on appelle romans graphiques des BD, mais qui ont pas tout à fait, qui ont un format un peu plus petit, avec beaucoup plus de pages que les 47 pages traditionnelles de la BD, et qui sont plus chères, évidemment.
Ah bon, mais je savais pas que c'était 47 pages traditionnelles pour la BD. De souvenir, les albums de Tintin font toujours 62 pages, non?
Mais je pense qu'ils en ont passé aux 47, là.
Je ne connaissais pas du tout cette norme.
Alors, les dernières, là, que j'achète pour les enfants, alors après, peut-être ça a changé, je ne sais pas, mais les BD jeunesse, elles font 47 en ce moment. Et puis, en plus, elles se décousent, donc il me faut tout recoudre. Donc je
effectivement, oui.
C'est bien regardé.
Bon, mais ce n'est pas ça que vous voulez nous faire acheter pour les cadeaux de Noël.
C'est deux romans graphiques, dont le premier, c'est « Ne m'oublie pas ». D'une jeune fille qui s'appelle Alix Garin et qui est une dessinatrice belge, donc elle fait tout, hein, dessinateur, scénariste et dessinatrice. Et donc ça raconte l'histoire de Clémence, dont la grand-mère souffre de la maladie d'Alzheimer. Et cette mamie, elle ne fait que s'enfuir de son EHPAD pour rejoindre soi-disant ses parents. Et donc face à ce désespoir et puis par peur aussi qu'on l'enferme dans une zone trop sécurisée, Clémence prend la décision de l'enlever de la maison de retraite, mais de l'enlever vraiment, et de prendre la route en quête de cette hypothétique maison d'enfance de mamie, quoi. Et donc c'est une espèce de fuite, de quête, de l'occasion de retrouver sa mamie, parce qu'elle a du mal à admettre que ça va être fini bientôt. Voilà, c'est une BD très très douce parce que les dessins sont couleur pastel et puis il y a peu de texte, ça passe beaucoup par l'image, qui sont d'une grande sensibilité et elles se suffisent à elles-mêmes, franchement. L'attachement de Clémence à sa grand-mère est très très fort. Elle se dit qu'elle est déjà un peu partie, mais elle s'accroche au dernier instant avec elle et puis la fin est extrêmement poétique et très belle. Donc voilà, je vous conseille ça. Ne m'oublie pas, d'Alix Garin.
Bah alors, on ne va pas l'oublier parce que vous en parlez presque avec émotion. Décidément,
ouais,
c'est l'émission et émotion aujourd'hui.
Ça provoque.
Oui, je l'entends à votre façon de nous le raconter, effectivement.
Et le deuxième roman graphique, alors lui, n'a rien à voir avec ça. Ça s'appelle Le droit du sol. C'est la dernière BD d'Étienne Davodeau qui est qui est un belliste qui a une cinquantaine d'années, même un petit peu plus, qui a fait beaucoup, beaucoup de BD, qui fait tout le temps des romans graphiques. Hein, il n'a pas fait de série de BD. Des BD plutôt engagés, c'est le cas de celle-là. Donc, son projet, quand il a décidé de faire cette BD, c'était de relier, lui, en tant que marcheur, à pied, la grotte de Pêche-Merle dans le Lot, au village de Bure dans la Meuse. Et tout ça en se demandant comment il se faisait que des sapiens, des gens comme nous, avaient dessiné de si belles choses sur les grottes de Pêche-Merle il y a des milliers d'années, et comment les mêmes sapiens aujourd'hui allaient enterrer des déchets nucléaires qui allaient durer des milliers d'années. Voilà, ça c'était son projet. Et donc il en a fait une BD qui est certes partisane, hein, donc ça...
Dès
le départ.
Mais là c'est très sociétal, là.
Mais qui est très très belle en même temps, parce qu'on traverse la France. Alors les dessins de Davodeau sont juste magnifiques.
Mais c'est tout public ou c'est adulte?
Ah non, c'est adulte.
Oui, d'accord.
C'est adulte, et puis c'est son parcours, sa marche, qui traverse tous les départements entre le Lot et la Meuse. Donc ça fait quand même 800 bornes à pied. Est émaillé de rencontres avec des scientifiques qui vont parler du nucléaire, des physiciens nucléaires, puis des personnages qu'il a rencontrés, certes, pas pendant qu'il marchait, mais il les case dans son parcours. Et donc, c'est très pédagogique, on apprend quand même beaucoup de choses. Et puis, enfin, moi j'adore ses dessins. Alors, c'est du noir et blanc, certes, mais c'est d'une finesse... C'est très très beau et c'est quand même rempli de réflexions très pertinentes sur notre monde, notre époque.
Voilà, c'est ça.
Donc moi je le conseille, voilà.
C'est orienté, mais c'est intéressant et ça apporte.
Si,
oui.
Si tonton est pro-nucléaire, on va éviter, mais bon.
Oui, évidemment. Oui.
Mais c'est une réflexion pour le monde... Oui, je disais, c'était une réflexion pour justement appréhender le monde de demain peut-être.
Oui. Oui, moi je pense que c'est une réflexion pour appréhender le monde de demain et pour pas se cacher que ces déchets, on les a quand même sur les bras, à un moment donné.
Ben oui, bien sûr.
Ça, c'est une réalité, hein. C'est partisan, mais ça part d'une réalité. Et le dernier livre, moi, que je vous conseille comme cadeau, alors là, c'est un cadeau plutôt féminin, on va dire, c'est un roman qui s'appelle Une soupe à la grenade. C'est un roman d'une auteure iranienne, qui s'appelle Marsha Mehran, qui est édité chez Piquet, qui est un éditeur spécialiste de la littérature orientale et extrême-orientale. C'est l'histoire de trois filles, trois sœurs iraniennes, qui s'installent en Irlande, qui sont parties d'Iran à la chute du Shah et quand s'est installé le régime de Khomeini. Et elles décident d'ouvrir dans un petit bled, mais vraiment un petit village paumé d'Irlande, un restaurant, parce qu'elles trouvent un local... qu'une ancienne boulangère italienne accepte de leur louer, pas cher. Elle décide de monter un restaurant oriental, en faisant des recettes de leur pays. Et bientôt, il y a toutes ces effluves orientales qui vont envahir le village, aux grandes dames du voisin qui est le patron du pub, et qui est un grand fan de disco, et qui avait décidé de récupérer ce local pour faire sa discothèque, la discothèque de ses rêves. Donc l'intégration des trois demoiselles n'est pas gagnée du tout, mais heureusement, ces jeunes filles très exotiques et leur cuisine au parfum envoûtant, notamment...
Vont séduire, j'imagine.
Comment ?
Je dis, elles vont réussir à séduire ces gens-là grâce à leur cuisine.
Voilà, tout à fait, Irène. Donc, et leur fameuse soupe à la grenade.
Bien
donc,
sûr.
Qui donne le titre au livre. Et elles vont finir par plaire au plus grand nombre et tout finira par s'arranger. C'est un joli roman parce qu'en plus, c'est pas neuneux. Hein, c'est du feel good, mais pas neuneux du tout. C'est bien écrit.
C'est un roman de femme, mais qui peut être lu par tous.
Ça peut être lu par tous, oui. Et d'abord, c'est un bel objet parce que les livres de Piquet sont très jolis.
Mmh.
Et en plus, celui-ci, à chaque chapitre, il y a la recette qu'elles font, mais la vraie recette.
Ah, ça, donc, c'est sympa.
C'est aussi un petit livre de cuisine.
Ah, ça, c'est... Donc, c'est un très joli cadeau.
Ouais, c'est un joli cadeau, je trouve.
Oui, tout à fait.
Voilà, alors après, parce que ça mélange un petit peu, c'est rigolo, parce que c'est un peu... Il y a le côté un peu froid de l'Irlande, les gens repliés sur eux-mêmes dans ce petit village au charme désuet. Et puis la sensualité de la cuisine orientale, ça fait un cocktail explosif. Et donc, voilà, une petite note un peu plus triste, c'est que ce roman, il a été écrit en 2005.
Oui.
Bon, il a eu beaucoup de succès, mais il n'avait jamais été traduit en France. Donc c'est la première traduction qu'on a de ce livre.
Bah, il est temps, 16 ans après.
Et on n'en aura pas d'autres, parce que la pauvre Marsha Meran, on l'a trouvée morte dans un cottage irlandais en 2014, dans des conditions aussi misérables qu'étranges. Elle avait 36 ans, la pauvre fille, et elle n'écrira pas d'autres bouquins. Voilà.
Oui, donc
c'est un peu dommage.
Oui, j'entends. Oui, c'est très triste surtout.
Voilà. Vous lirez celui-là, il est très bien. Il n'y en aura pas d'autres, mais ça vaut quand même le coup de le lire. Et puis vous pouvez l'offrir, c'est un beau cadeau. Voilà pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Pascal. On se retrouve dans 15 jours.
Pas de problème. Hein.
Merci.
On finira les cadeaux avec quelques polars, parce que c'est toujours sympa aussi.
Effectivement, et comme ça, il y en a pour tous les goûts. Merci.
Il y en aura pour tous les goûts.
Merci, à bientôt, Pascal. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Alors, on reçoit aujourd'hui Olivier Maraval, qui est venu nous parler de son nouveau spectacle « Roule, Tang et Vent debout » qui sera au théâtre Le Fil à Plomb du 5 au 9 janvier 2022. Je le laisse nous raconter, d'abord se présenter et nous raconter cette aventure.
Avec grand plaisir, je suis donc Olivier Maraval, je travaille avec la compagnie « Un tournesol sur Jupiter ». Une compagnie qui doit exister depuis une dizaine d'années et qui accueille la majorité de mes spectacles. Alors moi, je suis plutôt passionné par le théâtre musical, donc la comédie musicale. Et il est vrai que pendant le premier confinement, comme beaucoup d'artistes, ben, je savais pas vraiment quoi faire. Donc je me suis mis à partir à la découverte du répertoire de la chanson française. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer un spectacle que j'ai ensuite intitulé « Roule, Tang et Vent debout », qui est donc un spectacle qui raconte le quotidien d'un SDF, Hector de la Tournemire, qui a perdu tout son argent en voulant rénover un château qu'il avait reçu en héritage. Il a tout perdu et donc il se retrouve à la rue avec trois fois rien. Les seules choses qui lui restent, ça va être ses souvenirs. Et donc il va s'installer sur une place publique entre deux réverbères. Au début, cette place est vide. Et puis petit à petit, il va raconter ses souvenirs d'enfance, comment il a pu hériter de ce château. Il va raconter le cirque de l'étrange qu'avaient créé ses grands-parents, puisque ses parents étaient nains. Et ensuite, ce personnage va également raconter toutes ses rencontres de rue. Donc ça va être les rencontres des autres SDF du quartier, d'une famille de Syriens qui a traversé la mer pour venir se réfugier en France. Et ce personnage-là, en fait, cette place de village prend vie petit à petit grâce à un décor évolutif. Donc d'une place de village, ça va devenir un cirque, ça va devenir une école, ça va devenir la tente dans laquelle vivent les réfugiés. Et tout ce spectacle-là, en fait, est ponctué de chansons françaises des années 30. Donc, il va y avoir du Bourville. Enfin, Bourville, c'est plus dans les années 60, mais il y a Bourville, il y a Georgius, Ray Ventura, il y a des chansons de Mary Poppins, de Dréan également, du Magicien d'Oz.
Donc, ça se veut très gai.
C'est très joyeux, en fait. C'est peut-être, même si le propos peut paraître triste, en fait, c'est un spectacle qui est plein d'espoir. Et en fait, le personnage, ce qu'il défend, c'est que la plus belle des richesses, c'est la richesse du cœur et la richesse qui se partage et la tendresse. Et c'est pour ça que le spectacle est d'ailleurs ponctué avec la tendresse de Bourville. Donc oui, c'est très joyeux et c'est très fantaisiste, en fait. J'ai un personnage qui n'arrête pas de sortir plein d'accessoires de son seul vêtement. Et c'est grâce à ça qu'il va nous amener dans plein d'univers totalement différents et avec de la chanson, cette chanson-là des années 30, on est dans quelque chose de très swing, de très jazz, avec des chansons plutôt, des chansons cocasses, avec énormément d'humour. Il va y avoir aussi des chansons avec énormément d'émotions, et ce sont surtout des chansons qui racontent des histoires et qui ont un message à faire passer. Et j'ai été superbement mis en scène par Marie-Hélène Barraud, pour ce spectacle-là, et qui m'a super bien dirigé en tant qu'acteur.
Marie-Hélène Barraud, que je connais.
Ok.
Donc, du 5 au 9 janvier, c'est-à-dire 5 représentations.
Exactement, ça sera très précisément du mercredi 5 au samedi 8 janvier à 21h et le dimanche 9 janvier à 15h30. Et c'est un spectacle tout public, mais qui est accessible avec des enfants à partir de 8 ans. Et ça dure 1h15, le spectacle.
Oui, donc ça, c'est intéressant. On peut venir en famille. Rappelez-nous, le théâtre Le Fil à Plomb est à quel endroit ?
Le théâtre Le Fil à Plomb est au 30 rue de la Chaîne à Toulouse et c'est au métro Compense-Caffarelli, donc en plein centre-ville.
D'accord. Et alors, donc, j'imagine qu'il faut réserver ?
Exactement. Il faut réserver au 05 62 30 99 77 ou directement en allant sur le site internet du théâtre Du Fil à Plomb.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Olivier.
Merci beaucoup, Olivier.
Plein de bonnes choses pour ce spectacle. Maintenant, nous allons vous passer une interview que j'ai réalisée la semaine dernière à Paris, celle de Monsieur Alain Tellier. Alors, vous vous rappelez certainement de lui. C'est lui qui présentait l'émission Tout Paris sur Paris Première au début des années 90. Il a été également acteur, mais aujourd'hui, il se consacre surtout à la littérature et au théâtre. Et il va nous expliquer tout ça dans l'interview.
Irène Finkel, pour ma préférence, je suis très très enrouée, donc excusez ma voix. J'ai la chance d'être à Paris avec Monsieur Alain Tellier. Bonjour Alain.
Bonjour, mais c'est très beau une voix un peu enrouée.
C'est très gentil.
J'ai l'impression que je fais
une belle voix grave aussi.
Oh, c'est gentil. J'ai l'impression que je fais une émission avec Jeanne Moreau.
N'est-ce pas? Maison Iti, c'est ça?
Oh non.
Alain.
Irène.
D'abord, merci de ce petit moment tous les deux. Et comme je suis un petit peu enrouée, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler. Je crois que je vais vous laisser parler tout seul.
On dirait que vous allez pleurer même là.
N'est-ce pas? On sent une force sur
moi. Oui, il y a une émotion.
Et oui, il y a une vraie émotion. Qui est à l'atelier?
Ah, mais il aimerait bien le savoir. Je vous parlais à troisième personne. Ben, c'est quelqu'un qui... je suis quelqu'un. On va penser que je suis Alain Delon, je n'ai pas Alain Tellier. Quelqu'un qui a la chance de vivre ses rêves, parce qu'il y a un mot que j'aime bien, il est très dur à prononcer, c'est pugnace. Pugnace est un petit nom charmant, on aurait pu dire Fernandelle. J'aime beaucoup être pugnace, je crois que si j'ai une seule qualité, c'est peut-être celle-là. C'est-à-dire que je voulais être écrivain quand j'avais 17 ans, et je suis écrivain. Et en fait, il y a plein... c'est Cocteau qui disait qu'il y a plein de choses qui nous mettent hors de nous-mêmes, qui nous jettent en dehors de nous-mêmes. Et c'est très difficile de rester fidèle à ses rêves. Il y a mille raisons d'être infidèle à ses rêves. Les difficultés de la vie...
Est-ce que vous pensez que quand on reste fidèle à ses rêves, on arrive à les réaliser?
Ben, disons que si on ne reste pas fidèle, on ne les réalise pas. D'ailleurs, la réalisation du rêve n'est pas forcément le but. C'est la poursuite du rêve qui est beau. C'est comme ça Jean de la Croix qui disait on s'en fiche du chemin, on s'en fiche du but. C'est plutôt le chemin qui est important. Et puis, il n'y a pas de chemin. On le crée à chaque pas. J'aime beaucoup toutes ces pensées de Saint-Jean de la Croix. En fait, ce qui est important, c'est la direction que l'on prend pour nos rêves. Parce que quand on est dans la direction qui nous vient du cœur, qui nous vient du plus profond de nous-mêmes, on fait des voyages, on fait des rencontres, on fait des rencontres de synchronicité, on crée du hasard, on crée de la joie au fond de soi. À quoi on est condamné sur cette terre pendant les quelques années pendant lesquelles nous sommes là à être heureux? Et rien ne rend plus heureux que la poursuite de nos rêves. Et puis une fois qu'ils sont concrétisés, moi j'ai réalisé plusieurs rêves, j'ai bien vu qu'une fois qu'ils sont là, je cours après un autre lapin, un autre lièvre. Cet élan-là, ça va pourquoi on se lève le matin. Vous savez, il y a tellement de personnes qui se lèvent avec difficulté parce qu'ils font une chose qu'ils n'aiment pas vraiment. Mais il y a un prix à payer.
Je rebondis. Donc, sous-entendu, vous faites des choses que vous aimez, vous réalisez vos rêves, mais vous dites, quand j'ai fini, je cours après un autre lièvre. Sous-entendu que vous êtes un éternel insatisfait.
Être satisfait serait un grave péché, je crois. Ce serait un des péchés capitaux, la satisfaction. Être content de soi, disons que on comprend assez vite... que poursuivre un rêve, il ne faut pas le faire par ego, il ne faut pas le faire pour briller en société, il ne faut pas le faire pour être aimé des autres. Si on est aimé des autres, tant mieux, si on ne l'est pas, tant pis. Il faut le faire pour apprendre quelque chose. Et c'est vrai que dans l'art, on apprend quand on lit, quand on voit des films, quand on écoute de la musique, quand on voyage, on apprend beaucoup quand on crée. C'est Richard Bach que j'aime beaucoup, qui avait écrit Jonathan Livingstone de Goéland et plein d'autres films merveilleux, qui disait tu enseignes ce que tu as besoin d'apprendre. En fait, quand on écrit un livre ou une pièce de théâtre, par exemple, on découvre des choses sur soi. Et quand on est hyper concentré, parfois on s'arrête d'écrire, on fait « Mais d'où vient cette phrase ?» Mais d'où ça vient? Parce qu'en fait, on est hyper concentré, on est dans une espèce de vision cosmique de soi-même. C'est des moments, ne serait-ce que ça déjà, poursuivre des rêves, parce que la créativité, c'est déjà une jouissance profonde. Il ne faut pas trop penser au succès, il ne faut pas penser est-ce que ça va marcher. Si à chaque fois qu'on écrit un roman ou une pièce, on dit « j'espère que ça va marcher », c'est tout à fait bloquant.
Donc, vous venez de le dire, vous écrivez des livres, mais vous écrivez également des pièces. Vous parlez de excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez.
Mais je vous entends très bien, moi 5 sur 5.
5 sur 5. Vous écrivez des livres. Moi, j'ai eu la chance d'en lire un. Je dis la chance parce que j'ai beaucoup aimé, c'était là.
Merci.
Il y a 2 ans.
Stella Finzi.
Oui, il y en a eu depuis.
Alors, depuis, non, parce qu'il est sorti il y a pile 1 an pour la rentrée littéraire. Moi, j'écris à peu près tous les 2 ans. Enfin, je sors un livre à peu près tous les 2 ans, parfois un peu plus long. J'ai sorti en tout 8 romans. Là, j'ai écrit 2 romans d'affilée, coup sur coup. Un cet été et un à la rentrée, là. Donc, j'écris des romans à peu près en 2 mois. J'adore écrire vite, parce que quand l'idée est là, j'ai peur de la perdre. Donc Stella Finzi était un roman éminemment romain, très romanesque, très très littéraire au vrai sens du mot, très écrit. Et là, j'ai écrit un roman plus rock'n'roll cet été. J'ai eu la chance d'être, grâce à des amis, à Nice pendant 2 mois. Donc j'ai écrit vraiment un roman qui va s'appeler L'envers du bonheur. Qui est vraiment un hymne à la ville de Nice, qui est un lieu que j'affectionne tellement, mais qui est très rock'n'roll. Et puis c'est une histoire d'amour à 3, très étrange. Très... C'est un Julie Jim d'aujourd'hui. Merci, Irène.
Oui.
Et un autre roman qui, lui, se déroule un peu en Suisse, que j'adore la Suisse, dans la région du lac Léman, de Vevey, de Lausanne, et qui s'appelle Le désir des autres, et qui, lui, va sortir chez un éditeur suisse. Je ne sais pas encore où sort L'envers du bonheur, par contre.
D'accord. Donc on n'a pas de date de sortie?
Non, il n'y a aucune date. A priori, le roman suisse va sortir au mois de juin. Mais comme ce n'est pas signé, voilà, mais c'est les éditions Montsalvin, que dirige Francis-Antoine Niki, qui est un merveilleux éditeur, et une sorte de road movie qui est entre Paris et la Suisse. Donc a priori, on est sur juin, parce que je risque d'aller avec eux faire les estivales de Montreux, qui est un très joli festival de littérature.
Alain Tellier, parlez-nous du théâtre, de votre théâtre.
Mais le théâtre, c'est les autres. C'est pas l'enfer, les autres, c'est le théâtre. C'est les autres parce que quand on écrit un roman, on est quand même assez seul, à part quelques dédicaces de temps en temps. Et ce que j'adore dans le théâtre, c'est que ça m'amène vers les autres. D'abord, j'ai été longtemps comédien, donc c'est un peu ma maison mère. J'ai quand même beaucoup d'amis dans la profession. Et en fait, quand vous écrivez une pièce, vous avez été seul pendant l'écriture, mais après, il y a les autres. Il y a les rencontres, les acteurs, les metteurs en scène, les producteurs, les directeurs de théâtre. Donc, en ce moment, je suis très, très dans le théâtre, vu que les 2 romans sont achevés. Donc, je suis vraiment en train de faire monter et de rencontrer beaucoup de gens pour monter 4 de mes pièces. Donc, c'est un moment de joie, d'échange, d'inquiétude aussi, bien sûr. On a envie que ça se fasse au meilleur endroit possible. Et voilà, je rencontre des équipes, certains viennent vers moi et on répète ensemble, on fait des coupes et on propose des pièces dans les théâtres.
Donc vous arrivez à faire les 4 en même temps ?
Oui, en même temps, parce qu'une journée, c'est long. Une journée, c'est long. Moi, j'aime bien faire plein de choses. Cocteau disait, j'aime pas le travail, mais le travail même. En fait, j'adore faire plein de choses. Plus on fait, plus on peut faire.
Bien sûr.
C'est un muscle, l'esprit. Hein.
Bien sûr.
Voilà.
Évidemment.
Et puis, j'aime bien jongler avec les choses. C'est des atmosphères différentes, c'est des acteurs différents. 4 projets, c'est pas non plus un truc de dingue. Voilà, c'est pas... Ce matin, j'ai réécrit, par exemple, une scène pour un de mes comédiens, qui s'appelle Pascal Demolon, que j'admire énormément. Pour une pièce qui s'appelle La Belle Chanson. J'ai ce très joli projet avec Pascal et avec Florence Darrel et Geoffroy Thiébault. Et voilà, on a discuté. C'est Dominique Guillot qui va la monter, merveilleux metteur en scène, merveilleux acteur. Et voilà, on a parlé. Il manquait une scène. Je l'ai réécrite ce matin à l'aube. C'est un plaisir fou.
Quand on monte une pièce de théâtre à Paris, Il faut d'abord la monter à Paris avant de l'amener se prendre.
Pas forcément. C'est une bonne question, Dr. Watson. Pas forcément, et ça peut commencer par une tournée. La preuve, ça peut commencer par un festival. Commencer sa pièce à Avignon. Ma dernière pièce à Paris s'appelait Le dernier baiser de Mozart, au petit Montparnasse, avec Delphine Depardieu et Guillaume Marquet. On l'avait créée à Avignon. Elle a fait vraiment son petit trou là-bas, ce qui fait que quand c'est arrivé à Paris, il y avait déjà, c'était déjà précédé d'une belle aura critique et publique. C'est dur de ne pas passer du tout par Paris. Parce que quand même, c'est la capitale, parce que quand même, il y a un creuset de public. Par exemple, j'ai un bon exemple. J'ai la chance d'avoir une pièce à Rome, en italien, au mois de février prochain. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que c'est février-mars, un mois et une semaine à peu près, et ça va tomber pendant mon anniversaire, donc c'est un cadeau de dingue. Mais, par exemple, en Italie, vous voyez, je tousse moi aussi. En Italie, un mois dans une ville, c'est presque le maximum. J'espère qu'après, elle va aller à Florence, elle va aller à Pise, elle va aller à Turin, etc. Je l'espère, à Milan.
Cette pièce, elle va venir en France ?
Alors, j'espère qu'elle va venir en France. D'ailleurs, c'est Florence Darel qui la joue si elle se monte en France. Elle s'appelle La main du destin. Mais elle n'est pas encore dans mes projets français. Donc, il faut beaucoup écrire pour que les choses se fassent. Il faut avoir beaucoup de pièces à proposer, beaucoup de manuscrits de romans. Je donne des cours dans une très belle école à Paris, des cours de dramaturgie et d'écriture de romanesque. En fait, beaucoup de gens qui créent une œuvre et ils passent des années à la monter. Non, il faut créer plusieurs choses. Parce que d'ailleurs, une première chose qu'on écrit n'est pas forcément la bonne. Il faut se remettre à l'ouvrage, il faut écrire 10 ou 15 choses pour que ça existe.
Comment vous trouvez l'inspiration à l'atelier ?
Alors, l'inspiration, j'adore cette phrase de Picasso qui disait « je ne cherche pas, je trouve ». En fait, quand on est vraiment, après au bout d'un moment, je ne dirais pas qu'on est fait pour ça, ce serait une grande prétention, mais moi je fais ça depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours écrit, ça a marché plus tard, j'ai commencé à publier à 40 ans. Mais il y a un moment où la journée est comme ça, c'est-à-dire, je ne cherche pas l'inspiration. Ça fait partie de mon existence. Vous voyez, là, j'ai mon ordi avec moi tout le temps dans mon sac parce que je peux avoir une idée, me mettre dans un bistrot et me mettre à écrire. J'ai souvent mon iPad, j'ai évidemment un carnet, je prends des notes dans mon téléphone. Les idées, peut-être que tout à l'heure je vais commencer une pièce entre une journaliste toulousaine qui vient à Paris, qui rencontre un écrivain. Les idées, elles sont partout. Et il ne faut pas les rater quand elles passent. Donc en fait, l'inspiration, c'est regarder la vie, regarder l'existence.
Quand est-ce que vous venez à Toulouse ?
Alors, je vais revenir à Toulouse prochainement, parce que ma maman est dans l'Aveyron.
Vous avez grandi là-bas ?
Non, je n'ai pas grandi là-bas. Mes grands-parents étaient de là-bas, mes parents aussi. Mais mes parents sont venus quand ils étaient très jeunes à Paris. Et j'ai été conçu à Paris, comme également mon frère, 10 années plus tard. Donc moi, je me sens très parisien, mais j'ai des souvenirs aveyronnais ou toulousains, parce que la Toulouse n'est pas loin de Cap-de-Nac, Figeac, etc. J'ai des souvenirs de mes vacances. J'allais passer toutes mes vacances chez mes grands-parents. Et c'était la vraie liberté, parce que ces petits villages là-bas, il y avait même à l'époque des bals populaires et tout ça, c'est les premiers flirts, c'est le vélo avec les copains, les premières cigarettes, c'est un souvenir d'une grande liberté parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement aimante et qui m'a beaucoup donné, beaucoup choyé, parfois un peu trop protégé, mais ils avaient tellement peur pour moi. Donc j'adore le sud, j'adore cette région, j'adore Nice, j'adore le sud.
Donc vous allez bientôt venir nous voir.
Mais bien sûr, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Alain.
Merci Irène.
Au revoir.
Oui, je souhaite m'excuser. J'avais une très grosse extinction de voix quand j'ai interviewé à l'atelier à Paris. Bon, ça va mieux, c'est l'essentiel. Alors, on vous propose dans l'émission Ma préférence, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle rubrique. C'est la rubrique sur les séries. Que vous pouvez trouver, alors pas seulement sur Netflix, mais sur tous les bouquets offerts à la télévision. Non pas que nous sommes prévoyants en vue d'un éventuel reconfinement, mais tout simplement parce qu'on estime que les séries aujourd'hui sont tout aussi importantes que le cinéma, ou le théâtre, ou la littérature. On avait une rubrique pour chaque art, j'ai envie de dire, et on aura à partir d'aujourd'hui également une rubrique série. Alors c'est Grégory Combe qui nous fait le plaisir de nous parler de ces séries. Il est à Paris, donc il nous envoie tous les 15 jours un petit quelque chose sur les séries vues. Je vous propose de l'écouter, Grégory Coma.
Bon, comme tous les mois de novembre, c'est la déprime et l'actu ne nous aide pas. À niveau santé, vous le savez, hein, grève de partout dans le secteur, 5e vague qui nous arrive dans la tronche et j'ai toujours pas signé les papiers pour avoir une mutuelle. Bref, la joie. Bah, niveau politique, c'est pas mieux. Entre une primaire des Verts aussi cohérente politiquement qu'un épisode de Camping Paradis, une primaire à droite aussi passionnante qu'un Metz contre 3, un bon dimanche pluvieux de Ligue 1, et un triangle amoureux qu'on essaye de nous vendre à mort entre Emmanuel, Marine et Eric, qui apporte autant à la politique que Cyril Hanouna à la culture française. Bref, bah, quant à moi, personnellement, vous le savez, hein, je suis un modèle de joie et d'allégresse, et j'ai quitté mon body summer depuis plus de 20 ans pour me consacrer à mon seul réconfort, le monde des séries. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Là aussi, bah, je suis pas épargné, hein, entre les dopes françaises mal jouées et payées par nos impôts, le massacre des animés japonais par Netflix en version live, et la cancel culture qui est partout, hein, qui aimerait censurer Tolkien, c'est bien, et qui est soutenue massivement par beaucoup de monde, par des intellectuels qui se prétendent HPI ou éveillés, et qui sont tout autant intelligents que mon chat débile qui se pisse dessus quand il a peur. Heureusement, je vous rassure, mon chat dort du côté de ma femme dans le lit, donc c'est pas trop un problème. Bon, Irène. Rassurez-vous, j'ai quand même trouvé 5 séries à voir pour sauver cette année 2021 dégueulasse, qui était pire que 2020, mais qui, à mon avis, 2021 sera quand même meilleur que 2022. Alors, on commence par quoi ? Arcane sur Netflix. C'est un super dessin animé en 9 épisodes, qui est l'adaptation de League du jeu League of Legends. Alors, j'avais un peu peur parce que League of Legends, la communauté est un peu nocive, même si le jeu est quand même très 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 addictif et très sympa. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir joué au jeu pour voir League of Legends. Vous êtes vraiment dans une histoire prenante d'affrontement entre deux mondes issus de la même ville. Alors, ça va être du classique, hein. Ça va être d'un côté le monde des riches, le monde des pauvres qui s'affrontent et comment ensemble ils essayent de s'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas autant si manichéen que ce qu'on pourrait penser, et chaque personnage vont avoir un développement et un parcours de vie jonché d'obstacles, et c'est des choix qui vont arriver, et vous pouvez être riche, mauvais ou bon, vous pouvez être pauvre, mauvais ou bon, en fait c'est vos choix qui vont vous caractériser. Donc j'ai adoré, la bande-son est géniale, notamment le générique signé par Imagine Dragon, et l'animation est folle, l'animation est magnifique, on dirait des tableaux à chaque fois, et c'est fait par Fortiche Productions, donc un studio français, et c'est juste incroyable qu'un studio français comme ça n'arrive pas à bien percer en France, et soit obligé d'aller se vendre aux États-Unis et avec Netflix, mais en tout cas tant mieux pour eux, ils font un boulot admirable, regardez Arcane, c'est génial. Ensuite, bol d'air frais, mais d'air frais en cette période morose, Sex Education, saison 3, c'est toujours aussi bon. Donc on suit toujours Otis et Maeve, hein, deux étudiants, qui vont donner des conseils sexuels à l'ensemble de leurs camarades. Otis est le fils d'une sexologue qui est jouée par Gillian Anderson, qui est juste extraordinaire dans cette série. De toute façon, elle est extraordinaire dans tout ce qu'elle fait, Gillian Anderson. C'est drôle. C'est touchant, ça aborde tous les sujets et toutes les questions de sexualité que se posent les ados d'aujourd'hui. D'ailleurs, je conseille aux parents de regarder cette série. C'est une série pour ados, mais aussi pour parents. Et parfois, vous allez partir sur une scène au départ, et je vous spoil pas, qui va vous faire sourire, vous faire rire, et vous allez comprendre la tragédie derrière. Donc ça va assez loin, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Vraiment, Sex Education, c'est une réussite sur tous les tableaux. Les acteurs sont géniaux. Regardez, foncez-y, vous allez vous faire du bien. The Expanse sur Prime, on arrive à la dernière saison, la 6e saison de The Expanse, qui est peut-être la meilleure œuvre de science-fiction de ces dernières années, hein, quand on voit la merde qu'est Fondation, hein, qui est un massacre de l'œuvre d'Asimov, hein, sur Apple TV. Ben, on a à côté The Expanse, qui respecte vraiment le matériau d'origine et qui le rend même, moi je trouve, un petit peu meilleur et un petit peu plus rythmé. Donc on a vraiment des complots géopolitiques autour de la Terre, qui a tenté de coloniser le système solaire, et donc on a des gens qui habitent auprès de la ceinture d'astéroïdes et d'autres sur Mars, mais chacun a soit son indépendance ou la veut, et il y a une arme, quelque chose qui arrive à ce moment-là, qui est nouveau, et qui va enflammer les tensions entre ces différentes planètes, je vous le conseille. Il y a de l'action, il y a de la politique, il y a des personnages vraiment fouillés, c'est que du bon. L'autre point que moi j'ai vraiment aimé aussi, pour vous faire plaisir, donc The Expanse c'est sur Prime, il y a Warrior sur OCS, qui est en fait une histoire imaginée par Bruce Lee, et qui est reprise par sa petite-fille, si je ne me trompe pas, ou sa fille, voilà, par sa fille, et qui raconte en fait l'histoire vraiment de la création de Chinatown et de combats entre les différentes mafias chinoises de l'époque. Donc évidemment, il y a du kung-fu, c'est un mélange de kung-fu, de western, c'est très bon, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense, c'est pas que pour se faire plaisir, on aborde vraiment le sujet du racisme, mais on l'aborde de façon globale, et on pose des choses. Là, encore une fois, peu de manichéisme. J'aime beaucoup, faites-vous plaisir. Si vous aimez le kung-fu, si vous aimez les histoires politiques intéressantes, intelligentes, si vous aimez les films d'action, si vous aimez tout simplement une belle réalisation, Warrior sur OCS, c'est pour vous. Et je finirai un point important, ils ont rajouté la série Chuck sur Prime, toutes les saisons. Chuck, c'est une très belle série sur un jeune homme qui travaille dans un point de vente informatique et qui reçoit un jour tous les secrets de la CIA dans son cerveau. Et il va devoir aider des espions à réaliser plusieurs missions. En fait, c'est la première série qui a déringardisé les geeks et qui, en fait, ne s'est pas moqué des geeks, comme l'a fait Big Bang Theory. À un moment, Big Bang Theory, on est devenu dans la caricature. Ça a toujours respecté le monde geek. Et franchement, là aussi, c'est un bol d'air frais. Ça fait du bien. Alors oui, Irène, la création française ne brille pas ici. Et un jour, on fera un débat sur pourquoi, malgré des milliards d'impôts versés à la création française, nous n'avons que des daubes avec Kev Adams et une des télés les plus chiantes du monde. Mais pour conclure, je finirai par une dernière recommandation, parce qu'il faut se faire du bien. La série documentaire ne montre jamais ça à personne sur Aurel San, qui est sur Prime, dont le nouvel album est juste incroyable. On raconte de façon juste et touchante les échecs et les victoires d'un petit Français de province. Et en fait, c'est plutôt l'histoire de cette génération perdue, années 80-90, dont je fais partie, qui a tant à dire. Et au final, en fait, c'est peut-être ça l'histoire et le conte parfait que nous attendions tous. Notre histoire, sans fonfon ni trompette, et juste en fait, quelle est cette génération qui n'a pas trouvé sa place. Alors voilà, je vais conclure. Oui, c'est la déprime, mais quand même. Continuez à aller au cinéma, à voir des séries, à aller au théâtre, à lire des livres, et même à écrire ce que vous avez envie de raconter. Parce que cette période, elle est pas réjouissante, et le seul moyen de s'en sortir, ben c'est la créativité, l'imaginaire humain qui nous fera le plus grand bien. Je vous remercie pour votre écoute.
Et moi, je vous remercie, Grégory, pour cette nouvelle chronique, parce que j'ai vraiment plaisir à vous écouter.
C'est très sympa,
et oui. Je serai encore ravie de vous écouter à nouveau dans 15 jours. Alors, l'heure est déjà venue de nous quitter, mais avant, je crois que Tiffaine a une ou deux dates à nous donner pour cette fin d'année.
J'ai deux dates à vous donner, deux petites infos. D'abord, pour ceux qui ont envie d'un petit peu de cinéma. Depuis le 26 novembre, il y a le Festival du cinéma italien à Toulouse. C'est jusqu'au 5 décembre, donc vous avez encore jusqu'à dimanche soir, 19h, pour aller voir des films italiens. Notamment ce soir samedi à 21h15, vous aurez la soirée de clôture. Et le dimanche à 19h, c'est la rediffusion du prix Jeune Public. Donc ça peut être intéressant de voir ça. La deuxième information, c'est l'anniversaire de l'Hostal d'Occitania le 17 décembre à partir de 18h. Donc ça, vous aurez un petit peu plus d'informations sur leur site Hostal d'Occitania et le programme. Voilà, ce sera tout, Irène.
Merci Tiffaine, pour ces informations. Alors justement, vous parliez de cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma préférence, il n'y a pas eu la chronique cinéma parce qu'on avait un programme extrêmement chargé. Donc on aura une chronique cinéma qui sera peut-être un peu plus longue dans 15 jours parce que effectivement, je vois beaucoup de films en ce moment et il y en a certains, j'aimerais bien en parler longuement. Donc on aura une grosse chronique cinéma dans 15 jours. Émission. Voilà, c'était ma préférence, une émission d'Irène Finkel et de
Jean-Luc Palévoudi.
Avec à la réalisation Tiffaine. Merci Tiffaine et puis merci à toutes nos chroniqueuses. Et maintenant, on doit le dire chroniqueur. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que les autres, bien sûr, sur notre site Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr. Et puis alors, on va se faire plaisir. Au lieu de lancer le générique de fin de ma préférence, on va avoir la joie d'écouter à nouveau Lisa Camin. Alors, qu'est-ce que vous nous chantez, Lisa ?
Donc, tout à l'heure, j'ai chanté une chanson anglaise. Maintenant, je vais chanter une chanson française de Clara Luciani. C'est Le Reste.
Merci d'avance.
Séquence émotion. Mmh.
Je suis une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton QL, grain de beauté perdue. Sur ton poussé, la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse. Bientôt mourir, est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Ton bonheur.